En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Le 29 novembre 2007 s'est déroulée sous la coupole de l'Institut de France la séance solennelle annuelle de l'Académie française, présidée par François Cheng. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de cette séance au cours de laquelle vous entendrez, selon l'ordre des lectures, le discours sur les prix littéraires par Pierre Nora, directeur en exercice, le discours intitulé « Le siècle du roi Fontenelle » par Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle, et le discours sur la vertu de François Cheng. Cette séance s'est déroulée en présence des académiciens, des mécènes, des lauréats et des invités. Cette année, l'Académie française a attribué 65 distinctions pour l'année 2007.
La séance est ouverte. La parole est à Monsieur Pierre Nora pour le discours sur les prix littéraires.
Mesdames, Messieurs, ce jour de proclamation des prix littéraires est une joie pour la compagnie qui les décerne, autant que pour les élus qui les reçoivent. D'abord parce que l'Académie remplit ainsi une de ses missions essentielles et poursuit par ce moyen sa défense et illustration de la langue française. Elle trouve là l'occasion de rendre justice au travail continu des commissions spécialisées et aux rapports de leurs membres qui mettent beaucoup d'ardeur et de conviction à défendre leurs choix. Justice aussi aux généreux mécènes et créateurs de fondations qui permettent de porter jusqu'à près de 60 le nombre des prix décernés. Ce nombre même ne permet pas, hélas, de rendre justice à chacun des ouvrages et chacun des auteurs, comme l'appellerait leur mérite et leur talent. Il est difficile de faire sentir derrière une nomenclature, par définition froide, la singularité d'une aventure de création. Toujours incertaine, pleine d'espoir et de désespoir, mais aujourd'hui couronnée de succès. Un rapide coup d'œil rétrospectif sur les discours de prix m'a convaincu que ce regret était traditionnel. Maurice Genevoix, secrétaire perpétuel, se demandait déjà il y a 50 ans comment offrir à chacun d'eux, sans omission, équitablement, ce qui réellement leur est dû. Encore le nombre de prix n'était-il pas à l'époque celui qu'il devait atteindre à la fin des années 70, plus de 300, y compris les prix de vertu. La vertu n'est plus devenue qu'un discours, on se réjouit d'entendre François Cheng le prononcer dans un moment, et bien des prix ont été heureusement regroupés en attendant la création d'un prix général de la patience, décerné à tous les éditeurs présents, et même d'un prix du silence que Jean-Denis Bredin avait, il y a 10 ans, eu la malice de suggérer. Mais comme on n'a pas encore inventé l'académicien muet pour leur maître, je me contenterai de rester fidèle à l'usage en divisant cette longue liste en deux parties. Les grands prix d'académie, il y en a 24, dont les lauréats voudront bien, en se levant à l'appel de leur nom, se prêter à nos applaudissements, et les prix de fondation que saluera, si vous le voulez bien, une ovation finale et collective. À tout seigneur, tout honneur. Le Grand Prix de la francophonie, institué en 1986 pour couronner l'œuvre d'une personnalité qui, dans son pays ou à l'échelle internationale, a contribué de façon éminente au maintien et à l'illustration de la langue française, a été décerné cette année à M. Eli Barnavi, historien israélien, historien israélien qui a sans doute la connaissance la plus intime de l'histoire de la France moderne et contemporaine. Né à Bucarest en 1946, Eli Barnavi émigre avec ses parents en Israël. Après des études d'histoire et de sciences politiques à l'Université hébraïque de Jérusalem, à l'Université Tel Aviv et à la Sorbonne, il est nommé professeur d'histoire de l'Occident moderne à l'Université Tel Aviv, où il dirige le Centre d'études internationales. Ambassadeur d'Israël en France de 2000 à 2002, à une époque particulièrement difficile des rapports entre ces deux pays, Eli Barnavi a conclu sa riche expérience par deux ouvrages. L'un, La France et Israël, une affaire passionnelle, développe une large perspective historique. L'autre, Lettre ouverte aux Juifs de France, les met courageusement en garde contre toute tentation d'enfermement communautaire. Eli Barnavi a publié une histoire moderne d'Israël devenue classique et dirigé, avec Saül Friedlander, un dictionnaire critique sur les Juifs au XXe siècle. Mais son domaine majeur de spécialité a toujours été le XVIe siècle français et les guerres de religion, sur lesquelles a porté sa thèse de doctorat en 1980, Le Parti de Dieu, études sociales et politiques des chefs de la Ligue parisienne. Depuis, il a multiplié les travaux sur cette période. Cette familiarité avec les extrémismes religieux l'a spontanément orienté vers les fanatismes religieux du Moyen-Orient, à l'analyse desquels est consacré son dernier et récent ouvrage, Les religions meurtrières. Eli Barnavi est actuellement conseiller scientifique du Musée de l'Europe, qui vient d'ouvrir ses portes à Bruxelles avec une exposition intitulée « C'est notre histoire, 50 ans d'aventure européenne ». C'est donc un grand intellectuel européen, comme nous en avons tant besoin, que couronne naturellement aujourd'hui ce grand prix de la francophonie. Pour l'ensemble de son œuvre, l'Académie a attribué à Madame Nahal Tajadod la grande médaille de la francophonie iranienne. Iranienne vivant en France depuis 1977, mariée à un écrivain français, c'est aux côtés de notre confrère François Cheng, qui a été son professeur, qu'elle a entamé des études de chinois, qui l'ont conduit jusqu'au doctorat. Nahal Tajadod, écrit Pierre-Jean Rémy, constitue un pont entre la France, l'Iran, puis la Chine. Si elle peut écrire en chinois comme en arabe, c'est en français qu'elle a bâti son œuvre. Une dizaine de livres, parmi lesquels des études sur le soufisme, sur le poète Rumi ou sur Mani, le Bouddha de lumière. Mais elle a aussi traduit des poèmes de Rumi, et bien loin de cette solide érudition, elle a publié en 2007 « Passeport à l'iranienne », un roman débordant d'humour en même temps que de tendresse pour le petit peuple de Téhéran. À Monsieur Michel Chaillou est revenu le Grand Prix de littérature 2007. Notre confrère Angelo Rinaldi le présente ainsi. On est sans doute de son enfance comme on est d'un pays, et les deux s'épousent. À Nantes, il y eut un garçon de 13 ans, Michel Chaillou, qui, réfugié sous un porche pendant le bombardement de sa ville, se demandait s'il retrouverait ses livres à la maison. Avant tout, ses livres. Il sortit de l'enfer, déjà tout blanc. Et les livres seraient sa vie. Nantes, qu'il a décrit à l'instar de Julien Gracq, l'une de ses sources d'inspiration. Car l'autobiographie sous la plume de ce fils de pauvre, à l'adolescence et à la jeunesse houleuse, dominée en leurs épreuves par la soif de lecture et qui enseignera à l'université, demeure l'une des directions de son œuvre riche de plus de 20 ouvrages. Par le biais d'une écriture baroque mais toujours allègre qui se souvient à l'occasion des parlers du terroir, de leur rugueuse saveur, M. Chaillou a tenté de renouveler la technique du roman en lui annexant des disciplines et des genres qui lui sont en général étrangers. Histoire, biographie, théâtre. En imbriquant aussi, comme il l'a fait cette année dans un recueil d'entretiens, des événements de sa vie à ses réflexions d'écrivain à l'écart des maîtres dont il a entendu la voix. Et cela aboutit à un univers poétique et érudit à la fois. L'imaginaire confondu avec le génie de la langue, aucun art qui n'appartient qu'à lui-même. celui qui parvient à rendre contemporain passé individuel et passé collectif dans une émotion partagée par le lecteur qui est devenu un ami. Le Grand Prix de littérature Henri Gall est un prix de l'Institut richement doté. Créé en souvenir de M. Henri Gall, un amoureux des lettres, et soutenu par la générosité de son exécuteur testamentaire, M. Michel Laurent. Il a été attribué cette année, sur proposition de l'Académie, à Mme Yasmina Reza pour l'ensemble de son œuvre. L'Académie a été la première à distinguer le talent dramatique de Madame Yasmina Reza, nous rappelle M. Michel Déon, en lui attribuant le prix du jeune théâtre pour Conversation après un enterrement et peu après le grand prix du théâtre pour Art. Si le théâtre, écrit notre confrère, occupe une place prépondérante dans son œuvre, elle est aussi romancière avec Une désolation et Adam à Berberg, ou témoin sensible de son époque et de ses proches dans Hammer Clavier et Nulle part. Son dernier livre, L'aube, le soir ou la nuit, jette un regard clinique sur une élection présidentielle en France. Il lui arrive aussi d'être sa propre interprète sur scène, où sa présence apporte cette émotion soudaine que Louis Jouvet appelait la minute théâtrale. Le prix Jacques de Fouchier, créé en 1998 par la Fondation BNP Paribas, est destiné à une œuvre dont l'auteur n'appartient pas aux professions littéraires, est allé cette année à un historien américain qui écrit en français, M. William Newton. M. Newton poursuit depuis des années de recherche, ses recherches sur Versailles et les services de la cour. Il a publié en 2000 « L'espace du roi, la cour de France au château de Versailles » et voici la suite. « La petite cour, service et serviteur à la cour de Versailles au XVIIIe siècle ». Ces deux volumes brossent, pour le chancelier Gabriel de Breuil, un tableau très fouillé, très touffu de la cour sous l'Ancien Régime, d'une façon parfaitement adaptée à la complexité de l'institution qu'il décrit. À la fois annuaire, organigramme, plan des installations, règles de fonctionnement, recueil d'anecdotes, le tout est d'un intérêt prodigieux. Le premier volume a obtenu un prix de la section Histoire de l'Académie des sciences morales et politiques en 2000. Et les deux volumes, une deuxième médaille de l'Académie des inscriptions et belles lettres en 2006. L'originalité de l'entreprise et la nouveauté du résultat ont convaincu la compagnie de décerner le prix Jacques de Fouchier à M. Newton pour les deux volumes. L'Académie a attribué le Grand Prix du roman 2007 à APJC, c'est-à-dire après Jésus-Christ, de Vassilis Alexakis, dont elle avait déjà salué le talent. Avec le prix de la nouvelle. Monsieur Alexakis est grec. Il vit en France et il écrit en français comme en grec. Après Jésus-Christ puise ses sources dans la Grèce contemporaine, chère à notre ami Michel Déon, une Grèce toujours si imprégnée de son passé, dit-il, qu'elle ne cesse de l'interroger et de le défier. Après Jésus-Christ est une belle histoire qui trouve son origine au sein même de l'énigmatique société orthodoxe du mont Athos, figée dans ses secrètes traditions. Le prix de l'Académie... Le prix de l'Académie française Maurice Genevoix, créé en 2004 par Madame Maurice Genevoix pour récompenser un ouvrage illustrant les valeurs morales et humaines qui ont guidé l'ancien secrétaire perpétuel de l'Académie, est allé au Québécois Jacques Godbout, poète, cinéaste, auteur dramatique, journaliste et romancier. C'est le romancier que nous décorons du prix Genevoix, précise Michel Déon pour « La concierge du Panthéon », roman dans lequel un quadragénaire canadien, Julien Mackay, secoue la routine de son travail de bureau pour venir à Paris dans l'intention, croit-il, d'écrire un roman. Julien Mackay n'écrira jamais son roman, mais Jacques Godbout en a écrit un sur lui-même, à la fois cruel et d'un exquis humour. Le prix Deluen a été créé cette même année pour récompenser tous les ans une personne ou une institution qui contribue efficacement à la défense et à la promotion du français comme langue internationale. Il a été partagé entre deux lauréats, M. Naïm Katan et M. Peter Thame. M. Naïm Katan, né en 1928 en Irak dans la minorité juive, arrivé en France à 19 ans pour poursuivre à la Sorbonne des études de français commencées à Bagdad, s'est installé à Montréal en 1954 où il est devenu professeur à l'Université Montréal, de l'Université de Laval. Auteur de plus de 30 ouvrages en français, essais et romans, dont Le réel et le théâtral, qui lui a valu en 1971 le prix France-Canada, M. Naïm Katan joue dans le monde entier, particulièrement au Canada, un rôle de premier plan dans l'univers de la francophonie, estime Pierre-Jean Rémy, aux yeux de qui l'anniversaire, composé de 11 lettres venues des quatre coins du monde, constitue l'un des plus beaux romans d'apprentissage qui soit de la francophonie. M. Peter Thame appartient à un tout autre monde. C'est, pour Michel Déon, un exemple des plus intéressants de la curiosité éclectique d'un grand enseignant britannique qui a voué sa carrière à l'étude d'écrivains français contemporains, aussi différents que Roger Vaillant et Robert Brasillach, André Chanson et Maurice Barrès. Il vient d'organiser cet été, à Belfort, un colloque international autour d'André Malraux, dont il est un grand connaisseur. L'Académie a attribué son grand prix de poésie, qui date de 1957, à William Cliff pour l'ensemble de son œuvre poétique et en particulier son dernier recueil, Le pain quotidien. Sa métrique singulière, note encore Michel Déon, décidément généreux contributeur à ce palmarès, dédaigne la ponctuation dans une œuvre souvent amère, parfois provocatrice, toujours très personnelle et d'une grande musicalité. Le Grand Prix de philosophie est allé à M. Gilles Dowek pour « Les métamorphoses du calcul, une étonnante histoire des mathématiques ». Plusieurs avancées mathématiques sont venues depuis une trentaine d'années, transformer profondément la notion de démonstration traditionnelle depuis l'Antiquité et avec elle la prééminence du raisonnement sur le calcul. Avec les machines informatiques en particulier, le calcul, dit M. Michel Serres, relève le défi que lui lance depuis trois millénaires la raison issue de la géométrie. C'est cette bataille indicible et passionnante que M. Gilles Dowek, lui-même mathématicien, logicien et informaticien, était bien placé pour raconter, comme pour en montrer les enjeux de connaissance, dans un livre qui fait trembler sur ses bases la raison classique et que notre confrère Michel Serres n'hésite pas à qualifier de halte. Le Grand Prix Moron de philosophie, qui récompense depuis 1987 l'auteur d'un ouvrage ou d'une œuvre qui favorise une nouvelle éthique, a été attribué sur le conseil de M. Jean d'Ormesson à un astrophysicien de renommée internationale, M. Trinh Xuan Thuan. Né en 1948 dans la banlieue de Hanoï et élevé à Saïgon, le professeur Trinh Xuan Thuan enseigne aujourd'hui à l'Université de Virginie. Il a publié une dizaine d'ouvrages scientifiques traduits en 16 langues, parmi lesquels « Le sort de l'univers, Bing Bang et après », « La mélodie secrète, le chaos et l'harmonie, l'infini dans la paume de la main » en collaboration avec Mathieu Ricard. Et dernièrement, « Les voies de la lumière », physique et métaphysique du clair-obscur. Plusieurs de ses ouvrages, et en particulier le dernier, qui lui vaut le prix Moron, ont été rédigés directement en français, qui reste la langue préférée de ce grand savant que le président Mitterrand avait invité à l'accompagner au Vietnam lors de sa visite officielle en 1994. Donc c'est à la fin. Par le Grand Prix Gobert d'Histoire, attribué à M. Paul Venn, l'Académie a voulu saluer tardivement l'œuvre d'un esprit puissamment original et à multiples facettes. Né en 1930, dans un milieu populaire qu'il qualifie lui-même d'inculte, il a été fasciné très tôt par l'archéologie et la civilisation du monde antique. Ancien élève de l'École normale supérieure, professeur au Collège de France de 1975 à 1998, Paul Venn s'est imposé comme le spécialiste incontesté du monde romain dès sa thèse sur la pratique de l'évergétisme, cette manière pour les empereurs de s'attacher le peuple par des jeux, paru sous le titre « Le pain et les cirques » en 1976. Il avait déjà créé la surprise en 1972 par un essai d'épistémologie qui révélait l'ampleur de sa culture, comment on écrit l'histoire, première réflexion sur la discipline depuis de la connaissance historique d'Henri Marou en 1954. La même audace intellectuelle, la même allégresse impertinente, drôle, érudite, marque son essai de 1983, « Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ?» Paul Venn a renouvelé profondément la vision du monde romain par son approche toujours interrogative et dérangeante. Sa retraite à Bédouin, en Provence, a été particulièrement féconde. Elle lui a permis notamment de publier une synthèse sur l'Empire gréco-romain et, tout récemment, « Quand notre monde est devenu chrétien », un essai qui lui permet au passage de poser des questions générales autour desquelles il n'a cessé de tourner, comment s'impose une croyance, ici le monothéisme, et surtout, qu'est-ce que croire ? Le prix de la biographie littéraire est allé à M. Alain Rey pour Antoine Furtière, un précurseur des Lumières sous Louis XIV, 37 ans après son Littré, l'humanisme et les mots, le savant lexicographe à l'esprit passionnément encyclopédique qu'est M. Alain Rey se retrouve fasciné par un autre personnage étonnant dans la galerie des grands collectionneurs de mots à laquelle il appartient lui-même. Furtière, l'opposé de l'honnête et austère Littré. Homme de loi par intérêt, homme d'église par confort et par conviction, critique par nature et écrivain par plaisir, Furtière, furtier comme on disait au XVIIe siècle, et pour Alain Rey, l'un des premiers en France à avoir voulu faire de la littérature une profession. Son ambition le conduisit à l'immortalité académique, sa passion des mots le mena au scandale, son œuvre poétique, satirique et burlesque à l'oubli. Mais les étranges beautés de son dictionnaire lui valurent une autre forme d'immortalité, dont, après Pierre Bell, Alain Rey analyse les raisons avec autant de malice que d'autorité. L'ouvrage auquel revient le prix de la biographie historique est allé à Pierre Mendès France par M. Éric Roussel, dont la carrière a été marquée par des biographies d'hommes politiques contemporains qui sont toutes devenues des ouvrages de référence. Georges Pompidou en 1984, Jean Monnet en 1995, Charles de Gaulle en 2002. Ce Pierre Mendès France a les mêmes qualités que les précédents, ampleur et sérieux dans la documentation, probité dans l'exécution. Éric Roussel nous montre Mendès France, courageux, complexe, attachant, quelquefois paradoxal, un être sensible souvent en proie au doute, en tout cas un destin ancré dans la mémoire nationale. Pourquoi ce destin ? Pour Alain Decaux, c'est par le discrédit dans lequel était tombée la Quatrième République que peut s'expliquer en partie seulement la popularité soudaine dont bénéficie Mendès quand il déclare en 1954 « Il faut dire la vérité, au peuple français. Mendès France est avec le général de Gaulle le seul grand acteur de la vie politique de la seconde moitié du XXe siècle à être devenu un mythe. Il est presque incroyable, poursuit notre confrère, que ce mythe se soit poursuivi si longtemps, alors que son passage au pouvoir de juin 1954 à février 1955 n'a duré que 7 mois et 17 jours. La fin de la guerre d'Indochine et les débuts du processus d'indépendance de la Tunisie qui ont marqué ce bref passage l'expliquent sans doute moins que la radicalité morale et la sincérité démocratique dont Pierre Mendès France est devenu la figure exemplaire pour plusieurs générations. Le prix de la critique a été décerné à Madame Diane de Margerie pour « Noces d'encre ». À côté de ses romans et nouvelles, l'éminent critique littéraire que nous connaissons nous offre avec ce recueil une superbe somme de textes qu'on peut qualifier avec François Scheng d'œuvre d'une vie. En effet, dit-il, sous forme de préface, elle a abordé au cours des décennies écoulées un nombre important d'écrivains de la littérature mondiale. Des écrivains avec qui elle se sent d'affinité, d'autres pour qui elle éprouve une compréhension particulièrement pénétrante. Cet éclairage fondé sur l'empathie, exprimé par des méditations autobiographiques, donne à l'ouvrage une unité de ton et de vue qui fait toute sa valeur. Le prix de l'essai revient à M. Philippe Barthelet pour un ouvrage au titre énigmatique, Baralipton. Le terme emprunté à la scolastique et déjà vieilli au XVIIe siècle désigne une cocasserie paralogique. Philippe Barthelet est un linguiste sauvé par l'humour et une science impeccable de la langue française, apprécie notre confrère Michel Déon. Avec autant d'esprit que de sévérité amusée, il révèle à petite touche les faiblesses et les avatars d'une langue contemporaine, son appauvrissement et ses contresens. Au passage, voilà l'Académie bien traitée et même félicitée. Qui s'en plaindrait ? C'est à Madame Laurence Cossé que l'Académie a décerné le prix de la nouvelle pour son recueil « Vous n'écrivez plus ». La romancière se penche ici sur les raisons qui poussent les écrivains à écrire. Voici une obscure standardiste d'une maison d'édition qui ne connaîtra qu'un succès posthume. Voilà un auteur connu qui subitement disparaît de la scène. Ailleurs encore, un vieil écrivain qui ne trouve plus d'éditeur. Laurence Cossé, nous dit Jean-Marie Rouard, parle avec bonheur du malheur d'écrire. Au titre du prix d'Académie décerné à des ouvrages qui touchent à sa propre histoire ou aux valeurs auxquelles l'Académie est essentiellement attachée, une médaille de vermeil a été attribuée à M. Jean Pruvot sur proposition de notre secrétaire perpétuel honoraire, M. Maurice Druon, pour « Les dictionnaires français, outils d'une langue et d'une culture, ouvrage de grande érudition d'un émule du maître d'œuvre du trésor de la langue française, M. Bernard Quémada ». Le prix du cardinal Grant, qui récompense l'œuvre d'un membre du clergé catholique français, séculier ou régulier, a été attribué au révérend père Dominique-Marie Dauzet pour « La mystique bien tempérée, écriture féminine de l'expérience spirituelle au XIXe et XXe siècle ». Le révérend père Dominique-Marie Dauzet est un religieux prémontré à l'abbaye de Mondet, dans le Calvados. Son œuvre, indique Madame Hélène Carrère d'Ancos, se partage entre l'étude de l'histoire de l'ordre des prémontrés et des grandes figures qui l'ont marqué, d'une part, et d'autre part, l'écriture hagiographique. Rappelons sa petite vie de Saint-Norbert que l'Académie avait déjà saluée, son Saint-Martin de Tours ou sa petite vie de Sainte-Foy. Ce principe hagiographique, le père Dauzet l'a conservé et infléchi dans sa mystique bien tempérée. Conservé car les ménographies qu'il réunit ici sur 8 femmes qui ont écrit leur expérience mystique et qu'il avait conçues comme des études de cas pour ses cours à l'école pratique des hautes études forment autant de petites vies spirituelles, mais infléchies aussi parce que ces femmes ne sont pas toutes des saintes de l'Église et parce que l'étude s'attache à un aspect particulier de leur spiritualité, l'écriture biographique. Celle-ci tempère la mystique parce qu'elle constitue paradoxalement l'expression apaisante d'une expérience violente et ineffable, mais aussi parce que cette écriture est le biais par lequel l'institution ecclésiastique masculine règle, dirige et éventuellement surveille une spiritualité féminine qui n'a pas alors autorité dans l'Église. Avec la voix retrouvée de ces femmes, c'est une page oubliée de l'histoire de la spiritualité qu'éclaire le père d'Auzet. Le prix du théâtre, fondé en 1980, est attribué cette année à M. Valère Novarina pour l'ensemble de son œuvre. Celle-ci a déjà trouvé une large reconnaissance. Mais c'est avec une joie particulière que, par la voix de Florence Delay, notre compagnie salue en lui le plus magnifique fournisseur de mots inconnus à notre dictionnaire. Je la cite. « Offrant un autre langage pour que le tournoiement des mots délivre des lieux communs et de la pensée courante, il multiplie les personnages aux noms extravagants. Le bonhomme nie il, Raymond de la matière, la figure pauvre, la femme spirale, le vieillard carnatif, Jean singulier, l'illogicien, le déséquilibré, l'ouvrier du drame. Rien que dans sa pièce, le drame de la vie, elle en a dénombré 2587. Leurs paroles, dit-elle, frayent dans notre ordinaire des trajets spirituels et matériels un peu fous, puisqu'ils recréent chacun un monde. Le prix du jeune théâtre, destiné à récompenser un jeune auteur dramatique, est attribué à M. Florian Zeller, 27 ans, pour « Si tu mourais ». Sa troisième pièce, la plus brillante et la plus achevée. À travers une femme dont le mari vient de mourir, Florian Zeller aborde le thème pirant des liens entre la vérité et le mensonge, le rêve et la réalité. « On ne s'ennuie jamais avec lui », déclare M. Jean-Marie Rouard. Il possède cet art de la magie théâtrale qui fait de « Si tu mourais » une excellente pièce, dont le succès, 5 mois à l'affiche, permet d'espérer une œuvre dramatique d'un grand intérêt. À Alain Cavallier, pour l'ensemble de son œuvre cinématographique, revient le prix René Clair. En un demi-siècle, Alain Cavallier a exploré beaucoup de genres et parcouru un long chemin, dont Florence Delay retrace les étapes. Depuis ses premiers films engagés dans l'histoire, Le combat dans l'île, 61, L'insoumise, 64, sur fond de guerre d'Algérie, jusqu'au prix Louis de Luc en 1980 pour un étrange voyage qui renoue avec le monde après un long silence et un deuil tragique. C'est alors qu'Alain Cavallier prend la direction qu'il ne quittera plus. L'enquête et la quête de l'énergie humaine, dit notre consoeur, de ce foyer intérieur que révèle en 1987 le visage radieux de Thérèse, qui obtint le prix du Festival de Cannes. Désormais, Cavallier s'engage dans une voie de plus en plus intérieure, personnelle, solitaire, jusqu'au Filmeur 2005, étrange expérience d'auto-cinématographie où l'auteur tourne au plus près de son intimité, sa vie privée, la femme qu'il aime, comme s'il avait accepté cet inconnu qu'il filme sans relâche lui-même. La grande médaille de la chanson française. Ah oui. La grande médaille de la chanson française a été attribuée à Serge Rezvani pour l'ensemble de ses chansons. Il peut paraître étrange, comme le remarque notre confrère Yves Pouliquen, qu'une médaille de la chanson soit décernée à un homme qui s'est voulu avant tout peintre dans les années d'immédiate après-guerre. Tout aussi étrange qu'on la délivre à l'écrivain prolixe que sa riche imagination porta à écrire de nombreux romans ou pièces de théâtre plutôt qu'à composer des chansons. Et pourtant, qui ne se souvient de la voix de Jeanne Moreau dans le film de Truffaut, Jules et Jim, chantant le tourbillon de la vie ou interprétant le merveilleux « J'ai la mémoire qui flanche ». Celle d'Anna Karina qui chante « La ligne de chance, ta ligne de hanche » dans « Pierrot le fou » de Godard. C'est encore une amitié pour des femmes, Mona Heft ou Elena Noguera, qui a amené Rezvani à reprendre le chemin d'un studio d'enregistrement récemment, 40 ans après Jules et Jim, ce qui rend tout à fait actuel la décision de l'Académie de lui remettre cette grande médaille de la chanson française amplement méritée. Au titre du rayonnement de la langue et de la littérature française, l'Académie a décerné 2 médailles de vermeil. L'une est attribuée, sur les conseils de M. René de Obaldia, au FETLIF, le Festival européen du théâtre lycéen francophone, organisé à Saint-Malo depuis 2004 par M. Daniel Mariet et qui cette année a rassemblé 200 étudiants venus de 15 pays étrangers pour distiller pendant une semaine les plus belles scènes de notre répertoire classique à un public de plus en plus nombreux. L'autre est attribué à M. Candido Mendes pour le défi de la différence, entretien sur la latinité. Dans une belle discussion avec le philosophe François Livonnet, ce grand intellectuel brésilien plaide pour une latinité inspirée de l'hellénistique alexandrine, qu'à son sens, l'Amérique latine de la bordure atlantique réinvente, aussi loin de l'héritage européen que de l'américain. Elle a séduit M. Michel Serres. Une latinité, dit-il, qui n'a aucune vocation à la dominance, qui n'insulte personne, mais qui inclut tout le monde. Cette énumération des grands prix de l'Académie est loin d'épuiser notre palmarès. Nous passons donc maintenant aux prix institués par des fondations qui portent le nom qu'ont voulu pour eux leurs mécènes. Plusieurs qui ont voulu honorer des poètes nous ont offert la possibilité de décerner 6 médailles ou lauriers. Le prix Théophile Gautier a permis de décerner une médaille d'argent à M. Emmanuel Merle pour Amère indienne et une médaille de bronze au frère Gilles Baudry pour nul autre langue que la voix. La médaille de bronze du prix Hérédia revient à Yuri pour poème de jour, poème de nuit. Le prix François Copé a été attribué à M. Michel Bulteau pour Hula Hoops et le prix Paul Verlaine à M. Frédéric Jacques Temple pour l'ensemble de son œuvre de poète et de traducteur de poètes. Le prix Henri Mondor, qui récompense soit un poète de veine mallarméenne, soit un travail sur Mallarmé, a été attribué à Mme Lucette Finas pour l'ensemble de ses travaux sur ce poète. Enfin, le prix Maïs Ploquin-Conan distingue M. Emmanuel Moses pour Figure rose. D'autres fondations nous permettent d'attribuer 13 prix ou médailles à des ouvrages de littérature et de philosophie générale. Le prix Montyon, destiné à un ouvrage recommandable par son caractère d'élévation et d'utilité morale, a été attribué à Madame Marie-Frédérique Pellegrin pour Le système de la loi de Nicolas Malebranche, qui a le mérite de renouveler la lecture de cet auteur en le faisant apparaître comme un philosophe politique. Le prix La Bruyère, qui couronne l'auteur d'un ouvrage de littérature morale, est attribué à Madame Anne Gangloff pour Dion Chrysostome et les mythes hellénisme, communication et philosophie politique, qui montre pourquoi cet orateur grec du IIIe siècle, qui a fasciné les humanistes de la Renaissance, a pu passer pour le type même du grand écrivain classique. Le prix Jules Janin, qui récompense une traduction, est revenu à Madame Danielle Robert pour sa volumineuse, consciencieuse et amoureuse traduction d'Ovide, Lettre d'amour, lettre d'exil. Le prix Émile Augier, destiné à l'auteur d'une œuvre dramatique, a été attribué à Madame Françoise Dornère, comédienne, romancière et auteur dramatique, dont le deuxième roman, La douceur assassine, raconte avec pudeur et gravité les émotions du grand âge, quand le corps ne suit plus les rêveries d'un homme muré dans sa solitude. Le prix Émile Faguet, qui consacre un ouvrage de critique littéraire, a été décerné à M. François Brunet pour son étude sur Théophile Gautier et la musique, où le cas particulier de l'auteur de Mademoiselle de Maupin illustre cette époque de fusion des arts que fut le XIXe siècle. Le prix Louis Barthou de littérature générale a été attribué à Madame Brigitte Buffard-Moret, dont l'étude sur la chanson poétique du XIXe siècle, qui élargit l'enquête amorcée par Paul Bénichoux sur les chansons de Gérard de Nerval, retrace l'origine d'un genre qui fut longtemps le plus populaire en France et qui demeure le moins étudié. La médaille d'argent de ce prix Louis Barthou revient à M. Jérôme Prieur pour Roman noir, court essai sur quelques figures de la littérature gothique et fantastique. Le prix Anna de Noailles est destiné à une femme de lettres. Il récompense cette année Mme Eva Christina Minzenti pour Les Inattendus. Le prix François Mauriac, destiné à un jeune écrivain, revient cette année à M. Philippe Villain, dont Paris l'après-midi raconte avec une écriture simple et juste la rencontre d'un homme et d'une femme. La médaille de bronze de ce prix François Mauriac a été attribuée à M. Alexis Salatko pour Un fauteuil au bord du vide, roman d'un personnage douloureux au cœur de la ville de Cherbourg. Le prix Georges Dumézil, destiné à un ouvrage de philologie, est allé à M. Jacques Charpentreau, qui a su faire de son monumental dictionnaire de la poésie française un ouvrage de référence qui explore en profondeur toutes les formes de la poésie. Le prix Roland de Jouvenel, décerné dans L'intérêt des lettres, est attribué à M. François Moureau, dont l'ouvrage La plume et le plomb, espace de l'imprimé et du manuscrit au siècle des Lumières, n'est pas seulement un indispensable instrument de travail pour tous ceux qui s'intéressent à l'imprimé au XVIIIe siècle, mais aussi une étude savante et distrayante sur les mœurs pittoresques du monde littéraire de cette époque. Le prix Biguet, qui couronne un ouvrage de philosophie ou de sociologie, a été décerné à Mme Caroline Eliachef et à M. Daniel Soulez-Larivière, qui se sont penchés, avec Le temps des victimes, sur un problème de la société contemporaine qui modifie profondément les comportements sociaux et, au-delà, les mentalités. Passionnante étude qui met en évidence une nouvelle notion du lien social qui se concentre autour du thème des catastrophes. Le prix F. Delacroix récompense l'auteur d'un ouvrage alliant les qualités morales et les qualités littéraires. Il va à Mme Jacqueline Risset pour « Traduction et mémoire poétique » qui se conjugue pour la création de l'œuvre toujours renouvelée selon ce que Yves Bonnefoy, dans une lumineuse préface, qualifie de « transmutation d'une recherche en une autre sans sacrifice de la première ». Une médaille d'argent de ce prix F. Delacroix distingue M. Eugène Ebodé, chroniqueur et romancier d'origine camerounaise, pour Silicani, dernier volume d'une trilogie qui rassemble entre fiction et autobiographie les souvenirs d'une adolescence africaine. Et le prix Jacques Lacroix, destiné à un ouvrage sur la vie des animaux, couronne M. Jacques d'Aguilar pour Histoire de l'entomologie. Bien illustrée, clairement écrite, elle raconte méthodiquement, à partir de la découverte du microscope, les rapports de l'homme avec les insectes et leur évolution. D'autres fondations nous ont permis d'attribuer 9 prix importants d'histoire. Le prix Guizot a été décerné à M. Dominique Yonia Pratt pour La Maison Dieu, une histoire monumentale de l'Église au Moyen-Âge. Ce grand sujet, l'auteur le traite avec une maîtrise parfaite des doctrines et des débats des clercs latins et autant de sensibilité que d'érudition. 2 médailles d'argent du prix Guizot ont pu être attribuées, l'une à M. André Chervel pour l'histoire de l'enseignement du français du XVIIe au XIXe siècle, l'autre à M. Charles Frostin pour Les Pontchartrains, ministre de Louis XIV, alliance et réseau d'influence sous l'Ancien Régime. Le prix Thiers récompense M. Maurice Sartre pour Histoire grecque, où ce grand historien de l'Antiquité classique a réuni une 40aine d'études qui composent un ensemble heureusement savant et lisible sur la civilisation pré-chrétienne. le prix Eugène Colas couronne messieurs Pierre Richer et Jacques Verger pour « Des nains sur des épaules de géants, maîtres élèves au Moyen-Âge, où les deux maîtres du genre retracent le plus complet des panoramas sur 1000 ans d'éducation dans l'Occident médiéval. » Un ouvrage qui vient à son heure. Le prix Eugène Carrière, destiné à un ouvrage d'histoire de l'art, est allé à Madame Nicole Reynaud pour Jean Fouquet, Les heures d'Étienne Chevalier. Chef-d'œuvre d'émotion, d'intelligence, d'édition, consacré pour l'essentiel au musée de Chantilly. Le prix Georges Goyot, qui récompense un ouvrage d'histoire locale, a été attribué à M. Jean-Pierre Blais pour « Les princes et les jockeys » qui racontent Chantilly au XIXe siècle, à l'époque des courses. Le prix du maréchal Foch, attribué tous les 2 ans, consacre l'auteur d'un ouvrage intéressant l'art et la science militaire. Il a été décerné à l'amiral Jean Moulin et à M. Jacques Isnard pour « De la mer à la terre, les enjeux de la marine française au XXIe siècle ». M. Pierre Messmer y avait trouvé un inventaire complet et raisonné des missions et des moyens de la marine nationale aujourd'hui et demain. Le prix Louis Castex, qui permet de mettre en lumière soit des souvenirs de voyage ou d'exploration, soit des découvertes en archéologie ou en ethnologie, a été attribué à M. Jean Cuisenier, dont « Penser le rituel » nous promène des îles éoliennes aux cérémonies universitaires de Cambridge, des Arméniens de France aux Balkans, à une époque où, comme aujourd'hui, les repères rituels s'estompent. Le prix Diane Potier-Boès, qui concerne un ouvrage consacré à l'Égypte ou à la Méditerranée, est attribué à Madame Edith Garnier pour « L'âge d'or des galères de France, le champ de bataille méditerranéen à la Renaissance ». Ouvrage savant mais agréable à lire sur un aspect original de la Renaissance. Le prix Millepierre, enfin, particulièrement destiné à un auteur d'un ouvrage sur l'Antiquité, revient à M. Yann Le Boeck pour « L'armée romaine sous le Bas-Empire », livre de haute tenue et d'une science impressionnante où le professeur à la Sorbonne de l'histoire politique, de l'histoire militaire romaine, renouvelle un des sujets les plus controversés de sa discipline. Une médaille d'argent pour le même prix est décernée à Madame Claudine Auliard pour « Diplomatie romaine, l'autre instrument de la conquête de la fondation de Rome à la fin des guerres samnites ». Pour achever ce long palmarès, l'Académie a attribué cette année 3 prix de soutien à la création littéraire. Le prix Henri de Régnier à M. Pascal Ranoux pour « De Corbière à Tristan, les amours jaunes, une quête de l'identité » qui renouvelle l'image de ce poète mal connu. Le prix Amic attribué à M. Pierre Charras pour « Bonne nuit, doux prince » et le prix Motard à M. Arnaud Tripet qui, sous le titre « Écrivez-moi de Rome, le mythe romain au fil du temps » fait revivre la Rome de chacun des grands voyageurs. 3 autres prix de soutien accordés par la Fondation Del Duca ont également pu être attribués, le premier à M. Nicola Iodice, de nationalité italienne, pour lui permettre de poursuivre des recherches en histoire de l'art qui portent sur le XVIIIe siècle, le second à Mme Pia Petersen, romancière danoise, qui vient de publier un 4e ouvrage en français, avec « Passer le pont » et qui a décidé de consacrer sa vie à l'écriture, et le 3e à Madame Hayam Yared, poète et nouvelliste libanaise, qui inaugure une carrière romanesque avec son livre « Dans l'armoire des ombres ». Mesdames et messieurs les lauréats, juste un mot pour finir. Paul Valéry rêvait, en 1935, que l'Académie française devienne un îlot où se conserverait le souci du meilleur de la culture humaine, la langue, le savoir, une forme d'esprit encyclopédique. C'est ce qu'un tel palmarès voudrait aujourd'hui représenter. Votre présence ce soir sous cette coupole donne à la compagnie le sentiment de se rapprocher de cette magistrature idéale. Par ma voix, elle vous en dit sa reconnaissance. Peuvent se lever.
La parole est à Madame le secrétaire perpétuel pour son discours « Le siècle du roi Fontenelle ».
L'Académie française, fondée en 1635, qui a accueilli en 372 ans plus de 700 membres, n'a jamais pu encore fêter un centenaire. Un académicien pourtant y est presque parvenu, Fontenelle, le neveu du grand Corneille. Né le 11 février 1657 et mort le 9 janvier 1757, Bernard Le Bouillet de Fontenelle aura manqué le centenaire de 33 jours. À tous égards, il fut un académicien d'exception, par sa longévité d'abord. En un temps où l'espérance de vie ne dépassait guère 40 ans, alors qu'une enfance très maladive semblait le promettre à une mort rapide, il fut académicien pendant 66 ans et 33 ans, doyen d'élection. Il fut membre de trois académies, la nôtre, l'Académie des sciences dont il a été secrétaire perpétuel pendant 43 ans, et l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Cette série de records justifierait à elle seule que pour ce double anniversaire, le 350e de sa naissance et le 250e de sa mort, notre compagnie, en ce jour de rentrée solennelle, salua sa mémoire. Mais Fontenelle n'a pas été qu'un merveilleux vieillard. De cette très longue vie à cheval sur deux siècles, une personnalité étonnante et une œuvre considérable déployée sur un temps exceptionnellement long se dégagent. Fontenelle a été tout à la fois poète, librettiste d'opéra, dramaturge, auteur d'essais philosophiques et d'ouvrages scientifiques qui relient l'histoire intellectuelle de la France de Corneille et Descartes à celle de Voltaire et Diderot. Fasciné par cette émule de Pic de la Mirandole, ses contemporains l'avaient nommé le roi Fontenelle. Seule la Bruyère fit entendre un son discordant en le peignant ainsi sous les traits de Sidias. C'est un bel esprit, c'est sa profession. C'est en un mot un composé de pédants et de précieux, fait pour être admiré de la bourgeoisie et de la province, en qui néanmoins on n'aperçoit rien de grand que l'opinion qu'il a de lui-même. Ce méchant propos nous rend-il le vrai Fontenelle ? Certes non. Il suffit, pour s'en convaincre, de parcourir le livre de cette très longue vie. Quand Fontenelle naît, Louis XIV est en pleine gloire. C'est le temps des salons tenus par des femmes d'esprit. On étudie la carte du tendre chez Mademoiselle de Scudéry. Corneille domine avec Molière la scène littéraire. Et Pascal fait circuler ses premières provinciales. À 20 ans à peine, Fontenelle entre dans le monde des lettres grâce à son oncle Thomas Corneille. Celui-ci l'associe à l'écriture des livrets de deux opéras de Lully et surtout, il lui ouvre les portes du Mercure Galant, le plus réputé magazine littéraire du temps. Le jeune poète y publiera ses poésies, épigrammes, madrigaux, lettres galantes, se livrant à ce que Charles Perrault nommait « le doux métier des vers ». Qu'il pratiquera tout au long de son existence. Auteur de théâtre, il essuiera en 1681, avec Aspar, une tragédie, les Quolibets de Racine, vieil ennemi de la famille Corneille. Ses débuts difficiles ne l'empêcheront pas par la suite de connaître de grands succès, avec une œuvre dramatique très variée, comédie, tragédie, opéra, voire pièces expérimentales, écrite à son seul usage que son biographe Alain Niders nommera « Le théâtre dans un fauteuil ». Mais n'anticipons pas. Aux alentours de 1680, un changement considérable se produit sur la scène intellectuelle française. La publication de La Princesse de Clèves en 1678 annonce une conception de l'amour qui s'éloigne de la préciosité. Le monde philosophique est bousculé par Pierre Bayle, qui est exilé en Hollande, y prépare son dictionnaire, futur livre de chevet des Lumières. En France, Malebranche reprend l'héritage de Descartes, mort peu d'années plus tôt, tandis que Cyrano de Bergerac et Saint-Évremond propagent une vision nouvelle de l'homme, marquée par le scepticisme et le culte de l'indépendance de l'esprit. Un nouveau type d'homme de lettres et de savant apparaît alors, le géomètre, dont se réclame Fontenelle, qui écrit dans le Mercure galant « Je sors d'une quatrième lecture de La Princesse de Clèves, et c'est le seul ouvrage de cette nature que j'ai pu lire quatre fois. Il vous serait aisé de juger qu'un géomètre comme moi, l'esprit tout empli de mesures et de proportions, ne quitte pas son Euclide pour lire une nouvelle galante, à moins qu'elle n'ait des charmes assez forts pour se faire sentir à des mathématiciens même. » Le poète, le dramaturge, se range ainsi résolument dans le camp des philosophes et des scientifiques. Et le public découvre en 1683 un chef-d'œuvre, le nouveau dialogue des morts, où Fontenelle fait se rencontrer aux enfers des couples de morts, morts anciens, morts modernes, couples d'hommes, de femmes, de morts illustres, et d'autres qui ne l'étaient point. Quels qu'en soient les héros, Socrate et Montaigne, Homère et Ésope, Charles Quint et Erasme, ces dialogues se caractérisent par un ton de scepticisme ironique et par l'accent mis sur la permanence et l'universalité de la nature humaine. À Montaigne, qui lui demande s'il est des siècles mieux dotés en hommes de raison que d'autres, Socrate répond « L'ordre général de la nature a l'air bien constant ». Le dialogue des morts connut un succès public considérable, répété presque aussitôt avec les entretiens sur la pluralité des mondes, où Fontenelle mêle la pastorale et la vulgarisation philosophique et scientifique. Dialogue encore une fois, opposant un savant et une marquise. Au cours d'entretiens nocturnes dans le parc du château, l'astronome explique à son hôtesse, la marquise, le système des astres et des mondes habités. Prudent, Fontenelle rassure au passage les théologiens que pourrait inquiéter l'idée d'habitants de mondes extraterrestres. « Ce ne sont pas des hommes semblables à ceux qui peuplent notre univers », écrit-il. Au fil de ces entretiens, c'est la philosophie de Descartes et le système de Copernic qu'ils mettent à la portée d'un public avide de connaissances scientifiques. Le succès de ce livre, qui, unissant l'invention poétique et la science, annonce déjà la science-fiction, est immense en France et à l'étranger, où il est partout traduit. Et Voltaire écrit alors à Fontenelle « Vous savez rendre aimables les choses que beaucoup d'autres philosophes rendent à peine intelligibles. Et la nature devait à la France, à l'Europe, un homme comme vous, pour corriger les savants et pour donner aux ignorants le goût des sciences. » Au même moment, les Nouvelles de la République des Lettres publie un petit ouvrage intitulé « Relations curieuses de l'île de Bornéo ». Ce texte non signé sera attribué à juste titre à Fontenelle. Et le lecteur déchiffra aisément, derrière les noms qui étaient tous codés, la signification de cette allégorie, dont le sujet apparent était une guerre civile entre femmes, mais dont le vrai sujet était le conflit opposant catholiques et protestants en France. Et l'auteur y prenait clairement le parti des seconds. Cette critique à peine dissimulée de la religion romaine, à l'heure de l'abrogation de l'édit de Nantes, fit scandale. Et Fontenelle aggrava encore son cas en publiant peu après l'histoire des oracles. De toutes ses œuvres, c'est la plus hardie, la plus propre à dresser les dévots contre lui. Fontenelle y soutient que les oracles ont été le fruit des superstitions, des mythes développés par des prêtres, du paganisme, mais nullement des démons, comme l'affirmaient les pères de l'Église. Derrière l'explication des oracles et des miracles qui sont ici sous-entendus par l'imposture, il touche ici à la question de la foi. Il montre que le sage doit découvrir Dieu en toute indépendance, en écoutant seulement son cœur. N'est-ce pas le déisme des Lumières qui s'annonce ainsi ? Fontenelle pouvait craindre à bon droit que ses audaces en matière religieuse ne le conduisent à la Bastille. Il y échappa grâce à la protection de ses amis jésuites. Mais un autre combat le requiert aussitôt. La querelle des anciens et des modernes, engagée par Perrault, bat alors son plein, et Fontenelle va apporter au camp des modernes la caution de sa gloire. Il expose ses vues dans la digression sur les anciens et les modernes. Les modernes ont à ses yeux le mérite d'avoir découvert le vrai, car l'histoire des hommes est celle d'un progrès continu, d'un perfectionnement constant de l'humanité qui ne peut regresser. Les hommes ne dégénéreront jamais, écrit-il. Les vues saines de tous les bons esprits qui se succéderont et s'ajouteront toujours les unes aux autres leur serviront, mais ils ne sous-estiment pas pour autant les anciens qui ont ouvert la voie du progrès aux modernes par les erreurs commises. Nous avons l'obligation aux anciens de nous avoir épuisé la plus grande partie des idées fausses qu'on se pouvait faire. Par cette conception équilibrée, par son indépendance politique aussi, car à la différence des autres modernes, Fontenelle ne s'emploie jamais à servir la gloire du roi. Il a apporté à son camp une autorité incomparable. Les partisans des anciens, Racine et Boileau, historiographes du roi, et La Bruyère, précepteur des enfants du prince de Condé, ne le lui pardonneront pas. Et Fontenelle pourra le constater lorsqu'il se présentera à l'Académie, car dès ce moment, il y songe. L'Académie représente le prestige, la sécurité et des avantages matériels. Elle n'était pas aussi une affaire de famille pour le neveu des frères Corneille, occupants successifs du 14e fauteuil. Fort des deux prix que l'Académie lui a décernés en 1687, premier prix d'éloquence et deuxième prix de poésie, il s'y présente l'année suivante. Mais son élection ne sera pas facile. L'Académie était alors divisée entre anciens, conduits par Racine et Boileau, qui la dominaient, et modernes. Ce conflit proprement académique était renforcé par l'opposition plus politique entre Versailles et Paris, c'est-à-dire entre la cour, dominée par Madame de Maintenon et le parti catholique, favorable aux anciens, et le palais royal, où l'entourage du duc d'Orléans soutenait les modernes. 18 voix s'étaient portées sur lui au premier tour, et Fontenelle aurait dû être élu. Mais c'est escompté sans les manœuvres de Monsieur, frère du roi, qui lui opposa un médiocre concurrent de son invention. Nullement découragé par cet échec, Fontenelle se présenta à nouveau 4 mois plus tard pour succéder à Furetière, et il fut encore battu par un rival lié au clan des anciens. Dès lors, il décida de se présenter systématiquement à chaque élection, et il perdit 2 fois encore au profit d'adversaires de piètre envergure, mais toujours candidat des anciens. Enfin, à sa 5e candidature, il l'emporta sur La Bruyère, que soutenaient naturellement Racine, Boileau et tous leurs partisans. Dans son discours de réception, il s'en prit à Racine. « Je tiens par le bonheur de ma naissance à un grand nom qui, dans la plus noble espèce des productions de l'esprit, efface tous les autres noms. » La querelle des anciens et des modernes, mais aussi celle qui opposait Racine aux proches de Corneille, ne s'arrêta pas là. La Bruyère, élue l'année suivante avec le soutien de Versailles et du clan des anciens, dénigra si fort dans son discours de réception Corneille que les modernes s'en plaignirent à la cour et demandèrent la censure du discours. Quelques mois plus tard, Fontenelle répondit par un libelle, opposant encore une fois Corneille Racine et attaquant avec violence La Bruyère. Mais le destin le vengea définitivement des mauvaises manières que lui avait faites La Bruyère. Ce dernier mourut 3 ans après son élection, alors que Fontenelle eut la satisfaction d'enterrer, durant les 2 tiers de siècle de sa vie académique, 114 confrères, dont tous ses ennemis. Peu d'années plus tard, ce fut au tour de l'Académie des sciences d'élire le géomètre, afin qu'il puisse, selon le vœu du roi, grâce à l'alliance de son savoir scientifique et d'une belle plume, rendre populaires les travaux des académiciens. Comment l'homme de lettres Fontenelle est-il devenu l'homme clé de l'Académie des sciences ? Il avait à son actif d'avoir publié en 1685, dans les Nouvelles de la République des lettres, une digression d'arithmétique sur le nombre 9. Et 10 ans plus tard, il avait rédigé une préface pour l'analyse des infiniment petits du marquis de l'Hôpital. Ce dernier texte, clair et élégant, le désignait comme l'homme capable de mettre à la portée de tous la connaissance scientifique et les travaux des savants. La science devient alors une sorte de religion nouvelle, où la foi dans le progrès continu se coule dans les formes et le vocabulaire traditionnel de la religiosité. Et Fontenelle, malgré une solide réputation de libertin, due à sa critique dévastatrice des fables, des prophéties, des superstitions, jouera un rôle considérable dans la naissance de la religion des sciences. Nommé secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences le 28 janvier 1699, il aura pour tâche de rédiger l'histoire de l'Académie des sciences et de faire l'éloge des académiciens disparus. Cette histoire et les 69 éloges de Fontenelle enrichiront le patrimoine du pays de tout ce qui se fait alors dans le domaine scientifique. Ils constitueront une véritable histoire de la pensée scientifique européenne. C'est par là que Fontenelle a inventé l'histoire des sciences. Voltaire écrira que grâce à ses éloges, Fontenelle a apporté la respectabilité à la science, et Flourens, secrétaire perpétuel au XIXe siècle, ajoutera « Fontenelle a mis pour la première fois en France les savants en lumière et les sciences à la mode. » Historien de son académie, véritable historien des sciences, mais aussi biographe et portraitiste délicat de ses confrères, Fontenelle rendit le savoir compréhensible à ses compatriotes et modifia par là leur mentalité. Écoutons-le. Une nation qui aurait pris sur les autres une certaine supériorité dans les sciences s'apercevrait bientôt que cette gloire ne serait pas stérile et qu'il lui en reviendrait des avantages aussi réels que d'une marchandise nécessaire et précieuse dont elle ferait le seul commerce. Sa lourde charge scientifique n'empêcha pas Fontenelle d'être à l'Académie française le membre le plus assidu et le plus actif. Jusqu'à l'âge de 99 ans, il assista à toutes les séances et fut régulièrement élu au bureau, directeur ou chancelier, contraint par ses fonctions de prononcer d'innombrables discours de réception et de haranguer le roi dans certaines circonstances. Il fut à l'Académie le chef de file des modernes, et son autorité aida à en faire lire un très grand nombre. La querelle des anciens et des modernes, à l'Académie, le rôle de Fontenelle en faveur des modernes préfigure l'autre grand conflit académique, celui qui, au XIXe siècle, opposa classiques et romantiques et l'élection de Victor Hugo, qui, entre parenthèses, a été élu à la cinquième fois, à la cinquième tentative, exactement comme Fontenelle. Tout cela ouvrit aux romantiques les portes de l'Académie, et Fontenelle, en son temps comme Hugo plus tard, sera à l'Académie le porte-parole de la modernité. Mais Fontenelle aurait pu être aussi, pour l'Académie française, ce qu'il fut pour l'Académie des sciences, son historien. En 1712, alors que l'Académie débattait de ses travaux à venir, l'abbé de Saint-Pierre proposa qu'elle confie à Fontenelle le soin d'être le mémorialiste de l'institution et le biographe de ses membres. Le projet n'eut pas de suite, et c'est fort dommage. Fontenelle fit aussi preuve d'un grand courage à l'Académie. Lorsqu'en 1718, celle-ci décida, pour complaire au régent, d'exclure de ses rangs l'abbé de Saint-Pierre, coupable d'avoir dans un ouvrage mis en doute la grandeur du règne de Louis XIV. Une seule voix s'éleva contre l'exclusion. Un seul vote y fut hostile. Ce furent ceux de Fontenelle. L'abbé de Saint-Pierre fut exclu, mais Fontenelle avait sauvé l'honneur de la compagnie. En 1740, à 83 ans, il abandonnait la fonction de secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. L'année suivante, l'Académie française fêtait avec éclat le demi-siècle de présence de Fontenelle en son sein. Le discours qu'il prononça à cette occasion était certes celui d'un patriarche des lettres, mais il était avant tout celui de l'écrivain, passionné par les problèmes de la langue. « L'Académie française, écrit-il, ne paraît s'occuper que des mots, mais une langue est bien plus qu'une langue. Il y règne au fond une espèce de métaphysique fort subtile, et la tâche de l'Académie est de développer dans notre langue cette métaphysique. » Fontenelle ne précisera jamais ce qu'était cette métaphysique, mais son propos annonce déjà Valéry et Mallarmé. Revendiquant le titre d'interprète des savants, il relève par ailleurs que c'est à l'Académie française, par ce qu'elle est, par ce qu'elle porte, c'est-à-dire la langue, qu'il doit d'avoir pu jouer ce rôle indispensable au progrès général de la société. L'esprit d'ordre, de clarté, de précision est celui qui sera la clé des plus hautes sciences pourvu qu'on l'y applique de manière qui convient. Et j'ai pu prendre à l'Académie quelques teintures de cet esprit qui devaient m'aider à remplir ma fonction. Par là, Fontenelle souligne tout à la fois l'unité de son œuvre littéraire et scientifique et l'unité de l'esprit humain dont les structures se reflètent dans la langue. On a souvent dit que Fontenelle n'était pas un homme de lettres de premier rang, même si Paul Valéry le tenait pour le meilleur prosateur du XVIIIe siècle. Sans doute son œuvre peut-elle paraître un peu frivole et dispersée, mais son influence est sans rapport avec ce qu'on a retenu de lui. Traité souvent de bel esprit, il a eu l'immense mérite d'avoir mis en avant la raison, dit son importance, à condition qu'elle fût présentée avec esprit. L'abbé Trublet, son ami et son historien le plus chaleureux, l'a décrit comme un bel esprit sur un fond juste et pensé. La dette des auteurs du XVIIIe siècle envers Fontenelle est grande. Ils lui doivent d'abord la transformation de la langue qui s'effectue vers la fin du XVIIe siècle, à la langue majestueuse, lente et noble des écrivains de la génération précédente. Il a substitué une langue légère, vive, malicieuse et nonchalante. Ce sera la langue de Voltaire, de Montesquieu, de Marivaux. Sur le plan des idées aussi, il a été l'homme de la rupture avec le XVIIe siècle, dont il rejetait les traditions et l'esprit. Avec les entretiens sur la pluralité des mondes et l'histoire des oracles, il aura appris à ses lecteurs que l'autorité et le respect de la tradition n'étaient plus de mise. Il les aura invités à l'indépendance de pensée, à l'esprit critique et au libre examen. L'encyclopédie lui est redevable d'avoir ouvert cette brèche dans les mentalités. Mais son plus grand titre de gloire est probablement la part décisive qu'il aura prise au développement de l'esprit scientifique. Laissons de côté son œuvre scientifique proprement dite, que l'Académie des sciences est plus habilitée à traiter, pour nous arrêter au reproche qui lui fut fait d'être un vulgarisateur. Il l'a été, cela est vrai, si l'on entend par là qu'il a mis la pensée scientifique à la portée de tous, arraché les savants à leur isolement, attiré l'attention de l'honnête homme sur les découvertes continues de la science, sur sa beauté et son caractère compréhensible et attrayant. Par là, Fontenelle aura été l'artisan d'une véritable révolution intellectuelle en France. Non seulement il a su intéresser ses contemporains aux sciences, mais il leur aura donné l'habitude et le goût, ignoré d'eux jusqu'alors, de la clarté, de la précision, du raisonnement juste, c'est-à-dire qu'il les aura formés à l'esprit scientifique. De la même manière qu'en s'attaquant aux anciens dans la grande querelle littéraire, il aura préparé ses contemporains à prendre part à la révolution intellectuelle en cours. C'est la raison de chacun, la capacité de réflexion de chacun qui est la clé du progrès intellectuel, répétait-il. Ce prince de la République des lettres aura en définitive annexé la science à la littérature, alors que par le passé, elles cheminaient séparément. Ce faisant, il a ouvert un horizon intellectuel qui était jusqu'alors quelque peu limité. Poète et surtout véritable théoricien de la poésie, il lui a aussi ouvert une nouvelle voie en donnant une explication poétique de la science. Et le géomètre qu'il se flattait d'être a assigné à la science sa véritable fonction, l'explication rationnelle du monde, et fixer la loi du progrès en l'établissant sur le seul fondement scientifique. Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alembert ont tous été tributaires de sa pensée. Fontenelle, il est en devenir, aura aussi été le favori des salons, tous dominés par des femmes, dont il aura été l'interlocuteur préféré durant trois quarts de siècle. Boileau, célibataire endurci, peu mondain, avait moqué l'empire des femmes sur la littérature et les académies. Dans une pièce intitulée « Les dames vengées », Thomas Corneille et Fontenelle en avaient pris le contre-pied. « La politesse, écrivait-il, se trouve chez les femmes. L'esprit leur vient avant la raison, et quand leurs frères sont encore à l'alphabet, elles régentent les ruelles. » Et ils en concluaient que les académies avaient besoin des femmes. Durant sa très longue vie, Fontenelle ne cessera d'aller d'un salon à l'autre. À 23 ans déjà, il était reçu dans le salon de Madame de la Sablière, hôtesse de la Fontaine. Il y apprit à regarder le monde avec l'ironie et la gaieté sceptique du fabuliste. Il sera accueilli aussi par Ninon de l'Enclos, qui recevait, écrit-il, toute la France à la lueur d'une bougie, car il n'était pas riche. Mais il admirait sa sagesse, son irréligion et son esprit libertin. Mais le salon qui le retint le plus durablement fut celui de la marquise de Lambert. Fontenelle le fréquentera jusqu'à la mort de son hôtesse en 1733, y retrouvant Fénelon, Oudard de la Motte, Mérand, Montesquieu, Marivaux. Ce salon, que le président Hénault appelait l'antichambre de l'Académie, était une véritable institution. On lisait les ouvrages qui allaient paraître, on jugeait les réputations d'esprit et la langue, où surtout se rassemblait ce que Vaugelas appelait la partie la plus saine de la cour, arbitre du bon usage du français. Lorsque la marquise disparut, la société qui se réunissait chez elle se transporta chez Madame de Tencin, qui avait fréquenté le bureau d'esprit de Madame de Lambert et appris d'elle comment faire vivre un tel cénacle. Au XVIIIe siècle, en effet, les femmes d'esprit se transmettaient les salons. Madame Geoffrin, qui venait chez Madame de Tencin, recueillit sa succession, et plus tard, Madame Necker en fit autant avec Madame Geoffrin. Tous les salons se disputaient Fontenelle. En un temps où le mariage était mal vu des philosophes, Fontenelle était, comme la plupart d'entre eux, un célibataire convaincu. N'avait-il pas écrit « Dans les nœuds de l'hymen, à quoi bon m'engager ? Je suis un, cela doit suffire. Si j'étais deux, mon état serait pire. » Il n'eut jamais non plus de domicile propre à Paris. Hébergé d'abord dans un trou infâme, disait-il, par son oncle Thomas Corneille, il se transporta ensuite au palais royal chez le duc d'Orléans, dans ce que le duc lui-même qualifiait de Galta, puis il trouva un dernier asile, rue Saint-Honoré, chez un cousin à la mode de Bretagne, riche et d'aube, toujours grognon. Les salons lui ont tenu lieu de famille et de vrai domicile. Ils ont contribué à rendre heureux un Fontenelle qu'il était déjà par nature et qui disait n'avoir dans sa vie connue que des accidents de bonheur. Le grand âge venu, à peu près sourd, souffrant de multiples maux et condamné à ce qu'il qualifiait la difficulté d'être, Fontenelle resta cependant, nous dit l'abbé Trublet, dans l'éternelle habitude de sortir. On doit à l'abbé le récit des soirées mondaines d'un Fontenelle presque centenaire. Je le cite. « Le dimanche, de midi jusqu'au soir, il était le héros du salon de Madame du Bocage, femme de lettres et hôtesse accomplie, qui conviait une société très choisie autour du vieux roi Fontenelle, qui, ingénieusement galant jusque dans sa vieillesse, disait 100 jolies choses à Madame du Bocage et faisait des vers pour elle. Le mardi était le jour de Madame Helvétius, dans son beau salon de la rue Sainte-Anne, où l'on répétait à satiété ses galanteries. Un jour, il dit en soupirant à la maîtresse de maison, qu'il avait surprise en déshabillé dans son boudoir, « Ah, madame, si je n'avais que 80 ans !» Il en avait alors 90. Le mercredi, il se rendait chez Madame Geoffrin, où se pressaient toutes les célébrités du siècle. En 1749, à la mort de Madame de Tencin, Fontenelle avait en effet déclaré « Tant pis, j'irai chez la Geoffrin ». Le milieu auquel appartenait Madame Geoffrin n'était déjà plus la grande aristocratie de Madame de Lambert. Les salons devenaient souvent l'apanage d'une bourgeoisie riche, mais de modeste origine. Mais Montesquieu, Marivaux, Marmontel, D'Alembert, Grimm, D'Holbach et Helvétius se pressaient à ces mercredis dont l'attraction première restait Fontenelle. Écoutons un témoin. Tout s'arrêtait et se taisait pour l'écouter et pour l'entendre. Fontenelle avait vu le siècle de Louis XIV, il l'avait connu tout entier, dans ce qu'il avait de plus beau. Il pouvait parler de deux siècles, celui de Louis XIV et le suivant, comme de deux connaissances. En 1753, il disait « J'étais chez Madame de Lafayette et je vois entrer Madame de Sévigné ». Tous les autres jours de la semaine, divers autres salons se le disputaient et il en sera ainsi jusqu'à sa mort. Mondain, Fontenelle, comme l'en a accusé la Bruyère ? Certainement. Mais dans les salons, il tenait le même rôle qu'à l'Académie des sciences. Il initiait le beau monde aux lettres et à l'esprit scientifique. Il fut un passeur incomparable entre le monde et le monde de l'esprit, comme il l'était entre la littérature et la science. Avec lui, les mondains s'imprégnaient de connaissances, d'esprit philosophique, et comprenaient, grâce à son génie de la vulgarisation, les idées les plus ardues et les découvertes les plus complexes. Au-delà de la mondanité, Fontenelle aura eu l'immense mérite d'avoir fait des femmes ses confidentes. Les femmes savantes avaient été brocardées au XVIIe siècle. En dialoguant avec la marquise sur la pluralité des mondes, Fontenelle aura mis fin aux préjugés bien ancrés de l'incapacité des femmes à accéder au savoir, particulièrement au savoir abstrait. Dans sa rêverie sur les mondes habités, où le propos galant vient en contrepoint, il a donné à la marquise, et au-delà à la femme, le statut d'égal du philosophe. En fréquentant avec assiduité les bureaux d'esprit de la marquise de Lambert et de ses émules, c'est la place des femmes dans la vie intellectuelle que Fontenelle aura légitimée. Contre Boileau, mais aussi contre tous les détracteurs des femmes qui décriaient les femmes savantes et voulaient les confiner dans la pure mondanité, Fontenelle a proclamé que les femmes alliaient à la perfection l'esprit le plus vif et le mieux construit, à la mondanité. Il aura été l'ami et le confident de toutes les femmes qui tenaient à leur bureau d'esprit, le garant de leur intelligence et de leur pouvoir. En définitive, ce célibataire convaincu aura été le plus grand féministe de son temps. Son succès dans les salons était dû tout à la fois à ce qu'il disait, la science vulgarisée, le pont jeté de Louis XIV aux Lumières, de Voiture à Voltaire et de Pascal à Montesquieu, mais aussi à son art incomparable de la conversation, qu'il tenait pour un moyen privilégié de diffusion de la raison et de l'esprit scientifique dans la société. Il y a un demi-siècle, dans un hommage rendu à Fontenelle pour les 200e anniversaire de sa naissance et de sa mort, Jean Rostand, célébrant l'œuvre de celui qu'il nommait « la conscience intellectuelle de son siècle », l'éminence grise de la raison française, s'étonnait que cet esprit universel soit tombé dans les temps même où la science triomphait, dans un relatif oubli. Et il demandait qu'enfin, Fontenelle, père de la pensée moderne, retrouve dans notre mémoire collective la place qui lui était due. Avec Jean Rostand, disons bien fort aujourd'hui que Fontenelle est véritablement immortel. Merci.
Mesdames, Messieurs, lorsque l'on fait l'éloge de la vertu, on rencontre en principe l'approbation de tous. Qui d'entre nous, s'il est sensé, se déclarerait contre cette qualité morale qui nous est nécessaire? Faire un discours sur la vertu serait donc tâche aisée. Rien n'est moins sûr. Je n'ai pas manqué de remarquer que rédiger puis prononcer un tel discours est un devoir redouté de mes confrères. Je ne saurais y faire exception. Car à une époque comme la nôtre, où règne souvent le cynisme, où un hédonisme sans frein, celui qui se propose de chanter la vertu n'a pas forcément le beau rôle. Il court tout de même le risque de se montrer plus ou moins naïf. De nos jours, en effet, lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est vertueux, on ne le fait pas sans un certain ton de condescendance, comme si l'on voulait signifier qu'il s'agit là d'une personne un peu contrainte, un peu rigide, qui ne sait pas tout à fait profiter des avantages et des plaisirs que offre la vie. Pour tout dire, d'un être passablement sérieux, scrupuleux, au point de paraître ennuyeux. Faire rimer vertueux et ennuyeux, est-ce inconvenant? Est-ce scandaleux? Ici, je me réfère à Confucius, qui, en son temps, c'est-à-dire 5 siècles avant notre ère, se lamentait justement de ce que la vertu, mal comprise, souvent ennuie. Et il s'écria : que n'ai-je le pouvoir de rendre le désir de vertu aussi attrayant, aussi excitant que le désir charnel ? Rendre le désir de vertu aussi excitant que le désir charnel ? Vaste programme. Afin d'y parvenir, afin de donner du charme à la vertu, Confucius faisait appel au rite qui comportait de beaux gestes et également à la musique, une musique harmonieuse et recueillie qui favorisait l'élan de bonté tout en réjouissant. Plus tard, en voulant montrer que la vertu n'est nullement une idée ou une règle abstraite, qu'elle est éminemment incarnée, il s'efforça de relier les vertus humaines aux grandes entités vivantes de la nature. C'est ainsi qu'il a lancé la célèbre formule « L'homme de cœur se plaît à la montagne, l'homme d'intelligence affectionne l'eau. » Ailleurs, il a comparé la vertu d'un homme de bien à la figure d'un haut pin, en disant « C'est dans la rigueur de l'hiver qu'on voit la qualité du pain, qui conserve intact sa vigueur sans flétrissure. » À partir de là, il est né une longue tradition dans laquelle les lettrés, à la fois poètes et peintres, exaltent certaines plantes dont les beautés variées, pleine de séduction, incarne certaines vertus spécifiques de l'homme. On sait que la grande peinture de Lettré, qui est devenue le courant majeur de l'art pictural chinois, a ouvert un assez large champ thématique. Toute la nature y est présente, les hautes montagnes comme les grands fleuves, les fleurs variées comme les oiseaux de toutes espèces, les personnages aussi, au cœur du paysage ou en groupes isolés. Cependant, nous l'avons dit, les peintres lettrés ont chéri en particulier certaines plantes qui séduisent par leur beauté mais aussi par les vertus qu'elle suggère, qu'elle donne à sentir. Dans l'optique chinoise, ce ne sont pas là de simples idées subjectives que l'homme conférerait à ses plantes, car celles-ci, liées à d'autres plantes dites médicinales, sont perçues comme réellement doué d'efficience, et le mot « vertu » prend alors son sens originel d'un agir efficace. Les plantes les plus célébrées sont au nombre de 4, le bambou, l'orchidée, le prunus, le lotus. On les baptise du beau nom de 4 êtres supérieurs ou de 4 excellences. Commençons par le bambou, dont la tige élancée et les feuilles acérées sont proches des traits de la calligraphie. Il est devenu une figure emblématique du meilleur esprit chinois. Les sens symboliques qu'il suscite sont multiples. Quels sont-ils ? D'abord, la droiture et l'élévation. À l'image de cette plante qui s'élance tout droit, comme d'un jet. Ensuite, la jeunesse et la fraîcheur d'esprit, car le bambou, pareil en cela à mes confrères de l'Académie, demeure toujours vert. Puis, l'idée d'un perpétuel dépassement de soi. En effet, en sa croissance, le bambou ne pousse pas sur une simple ligne continue. Il est formé d'une succession de sections, comme autant d'étapes de vie ou comme autant de sauts qualitatifs par lesquels il cherche à se dépasser. Une autre vertu encore, suggérée par un aspect spécifique du bambou, l'intérieur de celui-ci est creux. Plus exactement, il est vide. Avoir le cœur vide se dit en chinois « xu xin ». Cette expression n'est nullement péjorative, car « avoir le cœur vide » signifie « avoir le cœur habité par la vacuité », c'est-à-dire un cœur ou un esprit dénué de vanité et de suffisance. La vertu en question donc n'est autre que l'humilité. A-t-on épuisé là les vertus incarnées par le bambou ? Un dernier point mérite d'être signalé. On sait que la tige de bambou porte en son extrémité de longues feuilles fines et mobiles. Lorsque passe une brise, elles produisent des sons susurrants et mélodieux. Poètes et peintres aiment à demeurer assis au milieu de bambous, à laisser leur méditation bercée par cette musique intime. Le sommet du bambou rayonne ainsi d'une qualité suprême, la grâce du recueillement et du chant. Après le bambou, nous allons aborder plus brièvement les vertus des trois autres plantes. Le prunus est une plante toute de contraste. Sur une branche énergique, rugueuse, apparaissent de petites fleurs délicates, aux coloris tendres, frémissantes de vivacité. Et surtout, le prunus fleurit en hiver. Une des joies des peintres chinois et de tout chinois est d'aller admirer le prunus fleuri en pleine neige. Sur fond de blancheur, ces fleurs roses vives affichent leur fierté d'avoir triomphé de la froidure et de manifester la beauté de leur être malgré l'adversité. Il en va de même pour le lotus. Celui-ci pousse dans l'étang. Au-dessus de la boue, il déploie sa présence noble et dépouillée. Comme ses pétales vernissés ne sont jamais entachés par la boue, il devient le symbole de la pureté que rien ne saurait corrompre. En outre, il montre que cette pureté n'est pas imposée du dehors. Elle vient d'une force d'âme illuminée par une bonté bienveillante. Ne voit-on pas que ses pétales dressés forment une corolle mi-close à l'image de deux mains jointes en prière. Quant à l'orchidée, par ses couleurs, par son parfum, par sa forme indéfinissable, elle incarne une beauté sans cesse renouvelée, une beauté faite de douceur, de délicatesse et d'harmonie. En outre, vivant dans des lieux reclus, l'orchidée sait préserver ses vertus. Elle n'accepte pas la compromission avec la vulgarité et la brutalité du monde. Sur le plan imaginaire donc, là où en français, à la suite de Balzac, on évoque le lys dans la vallée, un Chinois parlerait plus naturellement de l'orchidée dans la vallée. On aura compris l'ensemble des pratiques que nous venons de voir consiste à aimer les vertus en les attachant à des entités vivantes de la nature qui ont le don de les rendre séduisantes. Autrement dit, à relier l'éthique à l'esthétique et par là à démontrer cette vérité fondamentale prônée par les anciens, à savoir qu'à un niveau supérieur, le bien et le beau sont unis, que vraie bonté et vraie beauté sont en réalité inséparables. À propos de ce lien intime entre bonté et beauté, je voudrais citer un bref passage de Bergson, notre illustre prédécesseur à l'Académie. Se référant à la pensée platonicienne, il dit « L'état suprême de la beauté, c'est la grâce. Or, dans le mot grâce, on entend aussi la bonté, car la bonté, c'est la générosité d'un principe de vie qui se donne indéfiniment. » Fin de citation. Oui, dans l'état suprême, bonté et beauté ne font qu'un. Si différence il y a entre les deux, elle résiderait en ceci. La beauté peut être pervertie et utilisé comme un instrument de tromperie ou de domination. Dans ce cas, est-elle encore belle? C'est pourquoi la beauté a besoin de la bonté pour être le garant de son authenticité. Mais la beauté est utile aussi. Elle permet à la bonté de dépasser la notion de devoir. Elle irradie la bonté et la rend désirable. Désirable, voilà le mot qui nous ramène à notre propos initial. Vous vous rappelez, nous avons invoqué Confucius qui se plaignait de ce que les vertus ne soit pas aussi excitante que le plaisir charnel. Or, nous l'avons bien vu, toute vraie bonté qui est à la base de nos meilleures vertus n'est autre que l'infini respect du merveilleux don de la vie. Elle rayonne donc toujours d'une beauté attirante. D'ailleurs, il nous suffit de nous demander, est-il un acte de bonté qui ne soit pas beau? Et en français, pour le dire, n'eût-on pas de la belle expression « faire un beau geste » ? Eh bien, au nom de la beauté du geste, notre désir de vertu peut être aussi attrayant que le désir charnel. Puisse certains arbres ou fleurs que nous chérissons quotidiennement parvenir à nous en persuader. Merci.
Vous venez d'entendre la retransmission de la séance solennelle de rentrée de l'Académie française qui s'est déroulée le 29 novembre 2007.